est-ce qu'il faut nécessairement faire la distinction entre être publié ou non en ce qui concerne auteur ou autrice? J'en suis pas si sûre. Je pense que de toute manière, on est auteur dès que on se lance à l'écriture et qu'on veut absolument être publié, puisque ce n'est pas une finalité en soi pour tous ceux qui et toutes celles qui veulent écrire, mais tout simplement qui veulent avoir une histoire à eux et qui veulent aller jusqu'au bout. Donc, définitivement, la première pour moi. C'est un prémisque.
Je suis officier, l'employeur dans la salle. Je suis écrivain. Donc, oui, c'est un travail qui m'a préparé énormément. J'ai commencé donc à écrire le scénario donc, de la tétralogie des origines en 2007. C'est donc quatre romans, plus de 3 millions de signes. Donc ça fait beaucoup de travail, beaucoup de recherche, parce que le contexte historique qui joue un rôle primordial, je dirais central dans l'intrigue. Donc forcément, il faut que tout se tienne, et surtout à partir du moment où l'histoire donc, par rapport à tout ça, je dirais que oui, c'est tellement prenant que c'est mon activité. Merci.
Merci. Gilles Laporte.
Merci. Moi, je dirais que je ne suis ni l'un ni l'autre. Ni écrire un livre. Parce que je me souviens d'une anecdote racontée par un ami peintre qui a rencontré Picasso alors qu'il avait 20 ans, lui, pas Picasso devait dire plus. Et Picasso fait connaissance avec lui, mais que fait-il dans la vie? Et ce jeune qui est devenu écrivain peintre aujourd'hui lui répond: je suis peintre. Et Picasso lui dit: tu seras un entier bonhomme, on n'est jamais peintre. On tente seulement de devenir chaque jour par son travail. Donc j'en suis là, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas auteur, j'essaie de le devenir. Et c'est aussi par fidélité à mes origines familiales, parce que je suis enfant d'ouvrier de filature des Vosges. Mes parents prenaient leur boulot tous les matins à 5 heures sur leur machine à l'usine. Moi, je prends mon boulot tous les matins à 5 heures sur ma machine qui n'est pas la même que la leur, mais c'est mon ordinateur. Et je fais comme je travaille. Je suis donc plutôt qu'auteur ou écrivain, un ouvrier de lettres.
Justement, je voulais vous poser la question de vos origines dans votre rapport au livre. J'ai pu dans une interview que c'était compliqué parce que vous n'aviez dans votre enfance, vous n'aviez pas vraiment accès au livre. Donc le premier combat pour vous, ça a été ce combat.
Oui, bon, dans cette famille, comme dans toutes les familles ouvrières de cette époque-là, ou paysanne, j'en ai un peu ça fait pareil. Le livre était quasiment interdit, le livre était considéré comme une occupation fainéante. Dès qu'un livre était ouvert, c'était toi et d'autres affaires, toi viens donc avec moi, tu m'en prends dans l'église. Donc c'était un luxe d'avoir un livre à l'accès à la lecture. Et c'est l'école de la République, c'est ma première maîtresse d'école qui m'a permis d'apprécier la langue, d'apprécier ses transparences, ses harmonies, ses beautés, qui m'a rendu amoureux, peut-être un peu d'âge, mais de la langue surtout, et qui m'a permis de décrocher le prix de lecture au cours élémentaire première année. C'était donc les choses de Cervantes en édition illustrée pour enfants que j'ai lu des dizaines, des centaines de fois en disant que j'aimerais bien un jour pouvoir raconter des histoires comme celle-là. Donc voilà, c'est là qu'est née cette vocation. J'ai reçu ce premier prix, ce premier livre, comme le plus beau cadeau qui puisse être fait.
Merci. Madame Beaulieu, est-ce que vous vous considérez comme un auteur ou comme un écrivain?
So, with the definition of the term I gave earlier, I guess I'm a writer. I was in the IT, information technology world, for a long time while I was trying to come up as a writer at the same time. And I was let go from my job at IBM last year, but I had been planning to try to switch to writing full-time for many years. So I decided to make the switch. I have a wife and two kids. It was a tough decision to try to go into writing full-time because, as we all know, it's not the windfall of money that we once thought it was once you start looking into it. exceptions. I was going to mention in the States the differentiation between author and writer. Author, I think, tends to be associated with novelist a bit more than writer does, and writer feels like a more general term, and includes fiction, nonfiction, other types of writing, hobbyist type writing as well. But on the flip side, author tends to have a bit of a snobbish connotation to it. So people that claim to be an author are maybe looked down upon a little bit by other writers. So anyway, that's where I fit.
Dans les définitions que Solène a données de l'auteur et de l'écrivain, je dirais oui que je suis un écrivain. Donc je gagne ma vie avec l'écriture. J'ai longtemps travaillé dans le domaine de l'informatique et j'essayais pendant longtemps justement de me reconvertir, de devenir écrivain à plein temps. Et puis j'ai quitté mon emploi chez IBM l'année dernière. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de sauter le pas. Mais bon, j'ai une épouse, j'ai deux enfants, et c'était une décision assez dure à prendre pour moi, parce que, comme vous le savez, on ne croule pas sous l'or quand on vit de sa plume. Donc, voilà, je dirais que je suis un écrivain d'implantant. Et pour revenir un peu sur la situation aux États-Unis, cette distinction entre auteur d'un côté et puis écrivain, si clair, on n'a pas tout à fait les mêmes définitions sémantiques. Ce qu'on appelle author est plutôt associé à. C'est plutôt un romancier, quelqu'un qui écrit de la fiction. Alors qu'un writer, c'est un terme un peu plus généraliste. Ça peut être quelqu'un qui écrit de la fiction comme de la non-fiction, comme on dit. Ça peut être quelqu'un qui est plutôt dans l'amateurisme, journaliste, etc. Et puis je dirais que le terme de author a une petite connotation un peu snob. Donc les gens qui se revendiquent authors aux États-Unis sont souvent un petit peu regardés de haut par les autres.
J'ai une question pour vous tous. À quel âge est-ce que vous avez commencé à écrire et à quel âge avez-vous été publié? Juste pour que le public se rende compte qu'il peut y avoir un espace de temps assez important entre les débuts et le premier pas vers la professionnalisation, on va dire. Alors, dans la question qui me fait remuer la mémoire de Poisson Rouge, c'est une bonne question. Je pense que de toute manière, j'ai tout le temps commencé, j'ai tout le temps voulu écrire, mais c'est vrai que je m'y suis mise, je dirais, sérieusement. Et ça, j'ai un certain collectif sur le web à remercier d'ailleurs pour ça.
Voilà.
Je pense que je m'y suis réellement mise quand j'avais, je ne sais pas, dans la vingtaine. On va dire dans la vingtaine, on va rester dans le film là-dessus. Et j'ai été édité donc en 2014 pour le premier tome des Outrepasseurs. Donc, comme j'en ai 34 maintenant, et bien, ça fera une petite trentaine. Donc, disons que ce premier tome, comme je n'avais bien sûr pas de contrat d'édition le concernant, j'ai mis un petit temps à l'écrire, puisque ça a été entre mon gars avec beaucoup de pauses, mais je dirais deux ans et demi. Il faut compter, bien entendu, le délai de soumission à des éditeurs. Je pense que certains dans la salle comprendront de quoi je vais parler. Et donc, du temps de réponse. Voilà, donc, effectivement, écrire et vouloir être publié dans cette démarche-là, ça prend un petit temps. Stéphane.
Alors, pour ce qui concerne la science-fiction et ce qui tourne autour de cet univers, j'ai commencé à écrire des petites histoires quand j'étais au collège. Ensuite, j'ai travaillé dans la aussi inviter ça sur les trias, c'est-à-dire tout ce qui peut être même sur des trias très connues où les auteurs communiquent en disant bah oui, mais je ne sais pas comment je vais finir, et machin. Enfin voilà, ou alors je pense qu'en faire 4, mais finalement j'ai eu tellement d'idées que j'en ai fait 8. Moi je voulais dès le départ avoir quelque chose, sans doute c'était ce que j'avais vécu auparavant. Je voulais arriver avec quelque chose en me disant bon, voilà, je vais. Qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je veux aller. Et l'idée, c'était dans l'épilogue, du Château des Miandes, donc le premier tome, d'avoir tout de suite de poser la scène finale de la tétralogie. Donc aujourd'hui, j'ai terminé la rédaction du quatrième tome, qui sortira donc en septembre, qui s'appellera le Crépuscule des Lieux. Et ça se termine bien à l'endroit où je l'avais prévu. Donc tout va bien.
Ceux qui sont intéressants.
A priori, oui.
Je préfère parler de personnages. Mais bon, oui, moi j'ai commencé à lire dès que j'ai su tenir un crayon, dès que cette première maîtresse d'école qui s'appelait Madame Juncker, je vais bien citer son nom, parce que j'avais lu tout, ou presque tout, m'a invité à le faire. J'ai publié pour la première fois de la poésie, c'était en 72. 68, je précise toujours en avril 68, parce qu'après, moi suivant, j'avais plus le temps d'écrire un peu, j'étais trop pris par d'autres activités. Mais c'était des coups d'essai. J'ai eu la chance de rencontrer un auteur oublié aujourd'hui, hélas, qui s'appelait Henri Lasto, auteur bourguignon, pour lequel j'avais beaucoup d'affection. Et on discutait souvent tous les deux, il disait tu sais, ne nous sommes pas pressés. On n'est jamais pris dans ce milieu comme dans d'autres, on n'est jamais pris au sérieux avant l'âge de 40 ans. Alors tu as tout le temps d'apprendre à travailler la langue, tu as tout le temps d'apprendre à la sculpter, tu as tout le temps d'apprendre à maîtriser le mot et à maîtriser ton expression par le mot. Fais-le. Et tu verras qu'après 40 ans, ça va se dépasser. Et c'était une bonne prédiction parce que j'ai trouvé mon premier grand éditeur à. J'avais 42 ans, 43 ans. Donc voilà, c'est une histoire, mais qui est une histoire, je parlais de travail tout à l'heure, une histoire qui est faite de progrès successifs et de travail. Bon, souvent, je rencontre des élèves dans les écoles primaires, les collèges, lycées, même en université, et me demandent comment peut-on faire pour devenir écrivain jeune, et surtout, soyez patient et travaillez. Apprenez à maîtriser la langue, parce qu'on trouve aujourd'hui, malheureusement, sur le marché, des choses qui ne sont pas écrites. Sont très très mal écrites, qui ne mériteraient pas d'être publiées, mais qui le sont parce qu'il y a une espèce de marché là, pour des choses trop vite mises sur ce marché-là. Donc, voilà, j'ai pris le temps, j'ai écouté la recommandation d'Henri Lasto.
Merci. Brenda Pécouille.
So I'm evidence of what Jill was saying about having patience and working at your craft and slowly honing it until you can get published. I come from a computer software background. That's what I went to college for. That's what I worked in for 20-some years after I graduated with various companies. So I never really taken writing seriously. But I did start a book in college, set that aside, came back to it several times over the next decade or so, and then I had moved to California and away from my family and had more time on my hands. So I started to get more serious about writing in roughly 2001. And at that point, I started to go to conventions, I started to read books on writing, start decomposing other people's fiction that I thought worked or that didn't work for some reason, and started working at my own craft. I had never really considered short fiction, but that is a great way, especially in the U.S., I'm not sure about here in France, to break into the market. If you can write short stories and get them published, it not only helps your craft, it helps to get your name out so that publishers know you, they understand that you've been in the game for a little while, they trust that your skill has come along, so they'll actually look at your novels when they're ready. So my first started dabbling. 2004 was when I sold my first short story. I eventually sold several more short stories, a dozen or two over the next 10 years. But in the meantime, I was also working on novels. So my first novel was picked up in 2009, and it was published in 2011. And then since then, I did have a few trunk novels. We refer to it in the U.S., novels that were written but will never be published because they weren't good enough. So I had several of those, but once I found that to the stage where I was being published, I had a trilogy that came out over the next few years, and then eventually sold 12 Kings of Charkai, and then now that's been translated, obviously, here and in other languages. So it's, I feel like I have taken a fairly common journey from apprentice to journeyman, you know, hopefully moving on toward master as I move along.
Comme disait Gilles, oui, je crois que je suis un bon exemple de ces écrivains qui se sont armés de patience. J'ai moi aussi pris le temps d'affûter mes compétences lentement avant d'être publié. Donc, comme je le disais, je viens plutôt moi, de l'informatique. J'ai étudié, je suis allé à l'université pour devenir informaticien. Ensuite, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans ce milieu. Donc, je n'avais pas pris l'écriture au sérieux pendant toutes ces années-là. Il m'a fallu du temps pour y venir vraiment. Mais j'avais quand même écrit un livre, un roman, quand j'étais à l'université. Et puis, il m'a fallu quand même plusieurs décennies ensuite pour que ceci puisse vraiment porter ses fruits. Ensuite, j'ai dû déménager en Californie justement pour des raisons professionnelles et je me suis retrouvée loin de ma famille, ce qui m'a donné plus de temps pour me consacrer justement à l'écriture. Et en 2001, donc, tout en continuant à travailler chez IBM, j'ai commencé à travailler plus sérieusement sur l'écriture. Et puis à ce moment-là, je me suis mis à fréquenter les conventions, à lire aussi beaucoup de livres théoriques sur l'écriture, à aussi décortiquer un petit peu l'écriture des autres, de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, dans ce que faisaient les auteurs qui me plaisaient. Tout ça, tout en développant mon propre artisanat, si je puis dire. Et puis, je me suis un jour lancée dans l'écriture de nouvelles. Parce qu'aux États-Unis, en tout cas, c'est vraiment un moyen très, très, très efficace pour percer. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne en France, je n'en suis pas sûre d'ailleurs. Parce que quand vous écrivez des nouvelles, eh bien, non seulement vous améliorez votre pratique, mais en plus, vous faites un nom petit à petit. De cette manière, les éditeurs commencent à vous repérer. Et puis ensuite, quand ils voient un roman de vous arriver en tant que manuscrit proposé, eh bien là, ils vous font peut-être un petit peu plus confiance à votre art. Et donc, c'est en 2004 que j'ai publié ma première nouvelle. Ensuite, j'en ai écrit deux autres douzaines. Entre 2004 et 2014, je dirais. Mais ensuite, mon premier roman que j'écrivais en même temps que je produisais ces nouvelles a été repéré en 2009 par un éditeur et puis publié pour de vrai en 2011. Et puis, alors, je dois aussi vous parler de ces romans du placard, comment dire, que j'ai écrit. J'en ai écrit plusieurs, mais ils ne tiennent pas la route, donc je pense qu'ils ne seront jamais publiés. Je pense que je suis arrivée à un niveau de ma vie en tant qu'auteur dans le monde de l'édition. Excusez-moi. Donc, ensuite, après avoir publié ce premier roman en 2011, je me suis sentie les ailes pour écrire une trilogie, une première trilogie qui est apparue il y a quelques années. Et puis après ça, j'ai enchaîné donc, sur Les 12 rois de Charakai, une série de 6 tomes qui a été traduite en français.
a case where I went to the publisher directly, sold, got an offer for the novel, and then I searched for an agent afterwards. I had been searching for an agent, but hadn't found one yet. Because I had an offer, I could go back and talk to the top of my list, my favorite agents and the ones that I knew did well. So I was very fortunate to have landed with Russ Galen in the U.S. He's one of the top few agents for sci-fi and fantasy. And he works with a foreign rights agent, and that agent handles essentially all of the foreign rights for Russ. And his name is Denny Bearer, and he has contacts with hundreds of countries at this point, with sub-agents in some cases, or direct contacts with him and his daughter. And so that's how it happens. I don't do anything. I just show up every once in a while when they make sales for me. So it's been great.
J'ai eu beaucoup de chance hein, parce que normalement la procédure traditionnelle, c'est de trouver un agent tout d'abord avant tout, et puis ensuite d'aller démarcher via cet agent. Mais pour moi ça ne s'est pas passé comme ça. Donc pour ma première trilogie, celle qui a été écrite avant les deux fois de Chiraka, j'ai d'abord proposé moi-même, je suis allée directement voir les éditeurs. Personnellement, je ne l'avais pas écrit dans un état public déterminé en tête. Il s'est avéré donc que pour moi c'était c'est de la fantasy, c'est du fantastique, mais je n'avais pas pensé que ça pouvait intéresser ce qu'on allait appeler le young adult, qui commençait donc à se développer grandement à ce moment-là, donc surfant sur la vague, donc Harry Potter et tout ce qui s'en suit après. Donc moi j'ai commencé donc à démarcher des éditeurs qui étaient connus donc pour Fantasy Fantastique et je n'avais pas pensé aux éditeurs jeunesse. Et là j'ai à remercier une de nos connaissances communes d'ailleurs qui m'a un jour envoyé un mail en disant écoute, est-ce que tu as déjà démarché les éditions Gelswing? Donc Gelswing qui est un éditeur jeunesse basé à Nantes. Et pour moi je connaissais bien leur production, mais je ne pensais pas qui sont intéressés par les autres passeurs parce que ça visait une tranche d'âge plus âgée que ce qu'ils avaient l'habitude. Et puis justement, ils essayent de se lancer dans une tranche qui pourrait intéresser donc, des ados plus âgés, donc vers les young adults, qui peuvent envoyer les autres passeurs. Je dis pourquoi pas. De toute manière, ici, c'est vrai qu'en francophonie, traditionnellement, on ne fonctionne pas avec des
ce métier, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, c'est tout au moins deux personnes qui veulent se lancer, mais il y a peut-être très peu d'élus, à savoir qui décrochent un contrat de publication, et je dirais avec des éditeurs qui ont, quelque part, des moyens suffisants pour mettre leur roman en valeur. J'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que 8 mois et demi après avoir envoyé, j'ai reçu le oui de l'extrême. Donc oui, ça a été une histoire de chance, de coïncidence et de rencontre au bon moment. Et est-ce que vous pouvez nous parler alors, nous présenter votre livre, enfin, le demain, en tout cas des autres passeurs, nous parler de l'histoire, de Peter, tout ça. Alors, ce qui concerne les autres passeurs, c'est un roman assez particulier, tout au moins au niveau de la structure et aussi au niveau de l'intrigue, puisqu'il y a deux intrigues en main. J'aime bien faire apparemment avoir plutôt par des intrigues un peu plus compliquées. On est parti sur une intrigue qui se passe quelque part assez traditionnelle, puisqu'il s'agit donc d'un jeune garçon, Peter, qui a l'air tout à fait normal, ordinaire, sans histoire, mais qui, au détour d'une agression pour une bête victime, va découvrir qu'il appartient donc à une société secrète qui s'appelle donc les Outrepasseurs. Et ces Outrepasseurs qu'on voit depuis des siècles, la même ennemie qui s'appelle les Fées. Alors, pas les gentils qui fait Disney, genre Clochette, disons. Mais plutôt les figures des contes et des gens traditionnels, donc Morgane, Morrigan, etc. Il voulait vraiment donc un retour aux figures des contes et des gens d'avant qu'elles soient passées dans la Guimauve, le Disney, tout ce qu'on a pu leur imposer ensuite. Donc c'est vraiment des personnages qui pour moi étaient fascinants parce qu'ils n'ont pas du tout la même morale que nous, pas du tout le même sens du bien et du mal. Et c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant dans cette saga des Outrepasseurs. Et en même temps, donc, il y a une deuxième intrigue qui est enchevêtrée avec la première. Et là, on fait qu'on voit un groupe de villageois au Moyen-Âge en Île-de-France qui se découvrent victimes d'une malédiction. Ils vont devoir découvrir en quoi elle consiste et surtout, bien entendu, comment s'en débarrasser. Voilà pour le premier tour. Merci. C'est pas très risqué pour l'édition pour vous. Est-ce que vous aviez bien ciblé? Est-ce que vous avez tellement plusieurs éditeurs? Comment ça s'est passé?
Absolument pas. Très mal ciblé au départ. Donc j'ai essuyé un certain nombre de refus parce que je ne connaissais pas en fait le milieu. Donc je m'adressais sans doute aux mauvaises personnes. Donc voilà. Dans un second temps, j'ai commencé vraiment à essayer de décerner ce qui pouvait éventuellement convenir, je dirais, attirer l'attention des profs, chez qui mon travail pouvait attirer l'attention. Et donc, voilà, j'ai contacté les éditions de Noël, donc j'ai du mail qui dirigeait donc à ce moment-là la collection le donc, et c'est lui en fait qui m'a appelé donc Gilles qui écrit donc sous le pseudo de Thomas Day. Et donc c'est avec lui qu'on a commencé à discuter et c'est lui qui m'a envoyé à ce moment-là chez ses amis donc qui m'a publié donc avec qui on a commencé à travailler en 2013 et donc le jeu de millions d'années est sorti en février 2015. Voilà.
Et vous pouvez nous parler du coup de ce narrateur qui est pour vous dans les champs.
J'écoutais avec attention spécialisation sur le côté le bien, le mal, effectivement, moi j'ai pas de héros dans mon histoire parce que mon personnage principal c'est donc un officier SS du nom de Friedrich Saxhauser et je dirais par rapport à ça c'est vrai que c'était une histoire qui selon moi n'était pas évidente à prendre parce que justement elle s'en fait beaucoup sur le bien, le mal et la frontière qui existe entre les deux ou qui peut exister. Voilà, donc, et je dirais que ça traverse un peu toute la saga parce que forcément, on va rencontrer des personnages qui viennent de différents horizons, je dirais politiques. Il y a des Américains, il y a des Anglais, il y a des Soviétiques et évidemment, il y a des nazis. Et l'idée, c'était justement d'essayer de faire bouger un peu les lignes par rapport à tout ça et de montrer que souvent, le blanc, le noir, c'est pas des peintres qui existent vraiment dans la vraie vie. Voilà. Donc, c'était conséquences qu'elles ont eues dramatiques sur, sur l'humanité, mais également pour le côté, je dirais, non élucidé de certains aspects de cette histoire-là, justement.
Ce qu'on va te raconter, en fait, c'est que cette histoire dans une quête de rédemption. Il me semblait que vous n'avez pas avoir lu que vous étiez dans une structure wagnérienne et que du coup.
Traverse la tétralogie, et voilà, donc avec cette quête de rédemption, et forcément ça se termine donc par le crépuscule des lieux, justement pour faire à nouveau un clin d'œil à la tétralogie wagnérienne, tout à fait.
J'ai la porte. Est-ce que votre premier roman, est-ce que ça a été facile en termes de temps d'édition? Est-ce que vous avez trouvé rapidement l'éditeur qui vous convenait? Ou est-ce que vous êtes passé de maison en édition à une autre? Est-ce que comment ça s'est passé pour vous, en fait?
C'était très très facile. Parce que mon premier roman a été publié immédiatement par moi-même. Je me suis dit, si tu les crois pas, toi, d'un qui pourrait le croire? Donc j'ai travaillé mon roman, et puis j'ai décidé de l'éditer à compte d'auteur. Et de présenter à des prix littéraires. Et il est passé à une voix du prix Acme Chatrian en 83, et à le commentaire qui a été fait par le président de l'époque sur les médias était en retrouvant cet auteur parce que c'est une vraie plume, et il aurait mérité le prix. Mais c'était que j'étais en compétition cette année-là avec un auteur qui avait écrit un remarquable roman qui s'intitule Sima, mon amour, qui a été publié par les éditions Mosellan Pierron, et qui était aussi le second de l'ONU, c'était le secrétaire général de l'ONU. Donc il avait évidemment une notoriété que je n'avais pas, mais son roman était excellent. Si bien que le deuxième roman, je l'ai encore publié à compte d'auteur, il a été admis dans les milieux littéraires d'une manière quasi immédiate. Cette fois, le père de Chatrian avec celui-là. Et à partir de là, ce sont les éditeurs qui m'ont fait signe, qui m'ont contacté pour me demander si je pouvais, si j'ai accepté de travailler avec eux. Donc voilà, je me suis lancé moi-même. C'est aussi un conseil que je donne aux jeunes que je rencontre dans les écoles et collèges. Alors, si vous y croyez vraiment, alors allez-y vous-même et vous allez finir par se rendre compte que vous existez.
Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de plateformes d'auto-édition qui
permettent
beaucoup de choses aux jeunes auteurs.
Autrefois, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, on ne publiait pas en numérique, et aujourd'hui, ça ne coûte quasiment rien. Alors qu'autrefois, pour faire imprimer un bouquin, mettre dans le circuit, ça coûtait très cher. Donc j'ai consacré l'économie que j'avais à l'époque, et c'est ainsi que j'ai réussi à me faire admettre dans le milieu littéraire.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier roman, Sous le regard du loup, qui est sorti, je crois, en 2016?
Oui, c'est un roman qui, on se souvient peut-être ici, pour quelques personnes en tout cas, de la fameuse histoire de Bête et Rouge, une histoire qui a tenu la une de tous les journaux, pas seulement lorrains, mais français, voire étrangers, pendant quelques mois. Une bestiole, sans conscience, on ne sait pas quoi, massacrer les brebis et les veaux dans les prairies. Cette affaire a pris des proportions absolument gigantesques. C'est devenu, alors évidemment, gonflé par la presse qui avait le moyen d'en faire de l'or d'écoute et du papier. C'est devenu une affaire, une sorte d'hystérie collective qui a pris des proportions presque terrifiantes. Donc je suis parti de ce constat pour essayer de voir comment peut se développer une rumeur, comment
environ.
For my first novel, for science fiction and fantasy, there's only a certain number of publishers in the U.S. that you would want to work with. At the time, there was the big six publishers. And beyond those, there's a sort of a second tier of publishers that are more boutique publishers. They end up publishing things that often fall through the cracks of the other big publishers. The projects that are maybe a little bit more esoteric, maybe the style is a little bit more avant-garde, and they'll take a chance on those because there is a market for those types of books, and they can find, you know, find sales and find readers. It's just not that type of big seller that the big six publishers are looking for. So I knew which publishers were there, and I knew what types of things that they were looking for, and so I did target my requests to them. The one I ended up going with was called Nightshade Books, a small, mid-sized publisher at the time in the U.S. They ended up folding, going out of business, essentially. They're still around as an imprint now for another publisher, but they ran into trouble a few years after I sold my book to them. But at the time, it's interesting how quickly their fortunes can rise and fall. They had been publishing one or two books per month at that time, and they hit a bestseller with Paolo Bacigalupi. He wrote The Wind-Up Girl, and Paolo had hit a ton of awards. He was selling a lot of books, so it was their first huge windfall, and because they had that, they had money to invest into new authors, and I was one of them. And so I was part of the Paolo Bacigalupi effect. So they pushed a little too far, meaning they tried too many new authors over the next few years, and it was too risky. They wanted to get two or three more Paolos, and they didn't find them. That's very difficult to get. That's lightning in a bottle. Difficult to land a second time so quickly. I absolutely targeted them because I knew that they were, you know, a respected publisher and up and coming.
Aux États-Unis, quand on publie de la science-fiction ou de la fantasy, il n'y a pas énormément d'éditeurs sérieux avec qui on a vraiment envie de travailler. Je dirais qu'il y en a à peu près 6 dans ce cas-là. Ensuite, il y a une sorte de seconde catégorie d'éditeurs un petit peu intermédiaires qui font des choses un petit peu plus indépendantes, je dirais, un petit peu moins grand public et qui finissent par publier des titres qui tombent un petit peu dans les interstices qui restent entre ce que les 6 grands éditeurs publient. C'est-à-dire des livres qui sont peut-être un petit peu plus ésotériques ou avec des sujets un peu plus avant-gardistes, qui se risquent, ces éditeurs-là, un petit peu plus indépendants, ils se lancent avec ces projets un petit peu moins évidents parce qu'ils savent qu'il existe quand même un marché pour ce genre d'ouvrage. Je savais, moi, pour qui je voulais, à quelle porte je voulais frapper. Donc, j'ai vraiment bien ciblé mes demandes. Et j'ai justement fini par frapper à la porte d'un éditeur qui s'appelait Nightshade, qui était à l'époque un éditeur de taille moyenne, je dirais. Mais malheureusement, il a fini par fermer. Par faire faillite à peu près 2 ou 3 ans après que mon roman avait été accepté chez lui. justement moins connu et peut-être moins évident. Et moi, donc, j'ai bénéficié un petit peu de cet effet Patchy Galopi. Ce qui est dommage, c'est qu'ensuite l'éditeur a voulu aller un peu trop loin dans cette démarche-là. Il a essayé, il a pris trop de risques en essayant de retrouver deux, trois autres Patchy Galopi. Et puis, bon, voilà, c'est difficile hein, de réussir un coup de chapeau comme ça, de réitérer les choses. Voilà, donc moi, j'aime vraiment cibler cet éditeur-là et cette catégorie d'éditeurs-là parce que je savais que c'était des gens respectables, respectés et puis en plein essor.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre série en cours, qui est en cours de traduction en France, Les Douze Rois de Faraday?
Twelve Kings of Charakai is a story about a desert city. It's a metropolitan hub of commerce in this massive desert where people sail over the sands with these tall ships that have special skis that allow them to sail over the sand dunes. And that the city itself is plagued by these creatures that come in once a month. When the twin moons are full, they come into the city and take tribute. They take lives, and then they bleed back into the desert, where they come and wait for another month and come back. The mystery of what those creatures are and why they do what they do is uncovered by the main character, Cheda, who is a young woman who loses her mother when she's young, and her mother was killed, she learns, by the 12 kings themselves, but she doesn't know why, and she's never been able to do anything about that. She vows revenge, but is not powerful enough to act against the kings until she meets one of those very creatures when they come into the city, and she's not killed. In fact, she has a personal encounter with one of them. I won't go farther than that to avoid spoilers, but that starts her on a journey to uncover what they mean to her, why her mother was killed, and what the kings have to do with that. In fact, how they secured the bargain they made with the desert gods to secure their power in the desert. So that slowly unfolds over the course of the novel and the series, in fact.
Alors, les 12 rois de Charakai, cette série, les 12 rois de Charakai ont signé avec les dieux, les premiers dieux, les anciens dieux du désert.